Haïti. Exposé en bas toute qualité catastrophe naturelle. Pour qui chaque fois c'est même dans ces mêmes règles. Pour qui ça nous pas j'en prends des vents. C'est pas une première fois. Pour qui c'est toujours même genre. Depuis qu'il y a une catastrophe, gros collègue un pétoff. Et humanité c'est celle prétexte ou traquette. Tout le monde sensible, sinistré c'est celle-ci. Yogin lèvre et malève une sous toute forme. Depuis qu'il y a une catastrophe, gros collègue un pétoff. Humanité, c'est celle prétexte ou traquette. Tout le monde sensible, sinistre, c'est celle-ci. Yogin lèvre et malève une sous toute forme.
La vie pas fili, machine pas fili. On met tête nous ensemble pour payer nous pas mal fini.
Une véronzelle pour nous découler.
Nous sommes en train d'écouter Pare Poum Pare. C'est du Haïti Gospel. Haïti, une île des Caraïbes. Une île vraiment abandonnée de tous. Je dirais abandonnée de Dieu et abandonnée des habitants de cette terre ou de la plupart. Mais pas de tous. J'ai avec moi aujourd'hui Véronica Avichain qui connaît Haïti, qui a passé 3 mois. Bon, c'est à elle de nous raconter un petit peu son expérience. Quand est-ce et pourquoi as-tu voyagé à Haïti?
J'ai été à Haïti 3 mois en 2011. Presque un an après le tremblement de terre qui a secoué et qui a détruit la plupart de l'île. Et ce que j'ai pu voir à Haïti, c'est la pauvreté, le désespoir, le profit de beaucoup de personnes de cette souffrance. Ces 3 mois à Haïti m'ont fait mal au cœur, vraiment m'ont fait sentir... la situation extrême que vivent les habitants d'Haïti, car non seulement le tremblement de terre a laissé les pertes qu'on connaît tous, mais je crois que, d'après ce que j'ai pu voir, 12 000 ONG, par exemple, travaillaient pour la reconstruction, soi-disant, de certaines villes, mais un an après le tremblement de terre, beaucoup de constructions étaient encore dans les mêmes conditions, et... les travaux que faisaient les ONG, je ne dis pas qu'il n'y ait pas de bonne volonté des personnes, mais le travail était insuffisant et mal organisé. Et surtout, ce que j'ai vu, c'est la peur des habitants de cette présence militaire constante de l'ONU. Ils avaient peur de ces militaires qui, non seulement étaient violents et autoritaires et des intrus, vraiment, mais ils avaient peur aussi de ce que laissaient ces militaires qui, à part les armes qu'ils introduisaient dans le pays, sinon il n'y aurait pas d'armes, ils ont laissé par exemple le choléra. Le choléra n'existait pas à Haïti depuis qu'un contingent de... Je crois que c'était Népal qui est venu avec le choléra, qui a laissé dans les rivières de Haïti les déchets et les... Et la bactérie, finalement, qui a tué beaucoup de personnes. Et si le choléra a tué tellement de personnes, c'est parce que c'est un pays pauvre. Parce que ici, chez nous, dans les pays qu'il y a des hôpitaux, etc., les personnes ne meurent pas de choléra. Mais à Haïti, oui. J'ai vu la solidarité de beaucoup de personnes. J'ai fait des amis qui ont vraiment travaillé, mais l'effort n'était pas suffisant parce que Haïti, vraiment, c'est une affaire économique. Voilà.
À quelle occasion tu as eu la possibilité de voyager à Haïti? Ce n'est pas donné à tout le monde de voyager, ce n'était pas pour tourisme.
Oui, ce n'était pas le tourisme. Je suis allée avec le UNASUR, c'est la Union des Nations d'Amérique du Sud, dans un projet solidaire. J'ai cru que j'allais faire un bien pour le pays et cette UNASUR donnait des ressources et gérait certaines ressources pour des projets humanitaires. Donc ma tâche était de voir que cet argent arrive vraiment dans les projets et que ce soit accompli. Et ça marchait effectivement, mais c'était des solutions vraiment temporaires et c'était des solutions qui n'étaient pas définitives, c'était pas une solution qui pouvait changer la vie des Haïtiens. Par exemple, c'était les donations de kits contre le choléra, le savon, l'eau de Javel, etc. Et c'était une solution non permanente, mais momentané. Et où les maisons, les petites maisons de Un Techo para mi País, c'est des petites maisons en bois qui sont destinées à durer 5 ans peut-être ou plus. Et ça, c'était une solution qui était pensée pour une reconstruction future qui n'est jamais arrivée. Donc les habitants recevaient ces petites maisons qui étaient vraiment un rêve pour eux, mais c'était pas la proportion entre l'argent donné et la solution n'était pas la bonne. C'est mon avis, hein, c'est ce que j'ai vu.
Depuis qu'il y a une catastrophe, on collecte la paix d'offre. Et l'humanité, c'est celle prétexte sous tragédie. Tout le monde sensible, sinistre, c'est celle-ci. Yogin lèvre, y'a mal, y'a une surtout.
Par ailleurs, tu as connu aussi un peu, en trois mois, le Haïti profond, culturel, la population. Tu as un blog très intéressant, je pense qu'on peut toujours le consulter.
Oui, j'ai eu l'occasion de voyager dans le Haïti profond et j'ai vu ces personnes qui avaient besoin de tout, de tous. Et si vous voulez voir les photos et les commentaires, malheureusement, sont seulement en espagnol. C'est veronicaenhaiti.blogspot. Vous pouvez aller le voir. Et oui, j'ai vu les gens qui avaient besoin de nous, qui avaient besoin du monde. Et le monde a répondu, le monde a donné de l'argent, a donné des vêtements. Mais malheureusement, c'est la distribution de ces dons a été, encore c'est mon point de vue, mal fait. Parce que la plupart de l'argent reçu des dons du monde entier, seulement le 4% arrivait à la population vraiment. Le reste, c'était les salaires des travailleurs des ONG ou des fabrications de tentes ou des infrastructures. Donc, c'était pas suffisant, c'était jamais assez. Et j'ai vu aussi que, par exemple, les dons de vêtements ou des finalement étaient vendus et n'ont pas donné aux gens. Alors, c'était très dur à voir. Et la pauvreté était tellement extrême. J'ai vu des petites filles, des petits enfants, par exemple, se échanger du sexe par de l'eau, par exemple.
Et qu'est-ce que tu as retenu aussi du Haïti culturel, des coutumes, du folklore, de la langue même, non ? On parle français, mais là-bas, c'est un français très particulier.
Oui, effectivement, c'est le créole. Le français qu'on parle à Haïti, c'est avec un accent très particulier. Ça a beaucoup de créole, ça a un accent qui, d'abord, c'est difficile à comprendre. C'est comme quand on entend un Canadien parler, c'est d'abord difficile à comprendre. C'est un accent complètement différent, et qui a beaucoup de mots qui viennent du créole. C'est un mélange des différentes langues africaines. Et les personnes en général, c'est des personnes très gaies. Et qui dansent beaucoup, qui aiment beaucoup la musique, les couleurs. Haïti, c'est un pays à couleurs. C'est par exemple les bus à Haïti, c'est ce qu'on appelle les tap-tap. Et ils sont vraiment très colorés, toujours avec des phrases religieuses. C'est un pays très très religieux. Et c'est le pays du voodoo. Mais le voodoo est très caché. Et les gens ont très peur de dire qu'ils connaissent et qu'ils pratiquent le voodoo. Alors on voit beaucoup d'églises, beaucoup de gens qui vont prier, qui vont à la messe, etc. Mais il y a un mélange étrange qui est fascinant.
Je me souviens avoir vu sur ton blog, par exemple, une image très particulière, non ? Il y a la pauvreté, il y a le manque d'eau. Et pourtant, les enfants, quand ils partent à l'école tous les matins, sont vraiment très propres et très bien habillés.
Ah oui, ils sont impeccables, on les voit. Les chemises blanches, impeccables. Il n'y a pas d'eau, vraiment. Quand je dis il n'y a pas d'eau, c'est pas qu'il y a très peu d'eau. Il n'y a pas d'eau. Les gens n'ont pas de robinet à la maison. Et pourtant, les enfants sont impeccables. Les filles bien coiffées, les cheveux parfaitement coiffés, les chemises blanches, comme je disais. Et pourtant, il y a toujours de la poussière, la terre un peu rouge. Ils sont toujours impeccables.
Éviter séparer pour ne pas répondre.
Ok. Tu as parlé du choléra, tu as parlé du tremblement de terre de 2010. Et il y a les ouragans aussi, non ? Cette année particulièrement féroce.
Oui, exactement. C'est non seulement des tragédies naturelles, disons. Mais je crois que ce n'est pas les pires, les tragédies naturelles, les ouragans, les tremblements de terre, etc. Les pires tragédies, c'est les humains qui abusent de ce pays généreux et qui ont laissé un pays pauvre saccagé, qui n'a plus rien du tout. Si on regarde l'île depuis l'espace, on voit l'île de Haïti, République dominicaine, on voit la moitié de République dominicaine est verte et la moitié d'Haïti est marron parce qu'il n'y a plus de forêt, il n'y a rien, tout est saccagé, tout a été pris, exploité au maximum.
Récemment, la MINUSTAH, qui dépend de l'ONU, vient de quitter l'île de Haïti. Non, ils avaient débarqué là-bas en 2004 et en 2017, ils ont plié bagages et ils sont repartis. Qu'est-ce qu'a signifié la présence de la MINUSTAH et que représente aussi son départ ?
C'est difficile à dire ce que représente, mais j'espère que c'est une victoire des Haïtiens parce que les Haïtiens ont toujours voulu le départ de la MINUSTAH. À chaque fois qu'il y avait des manifestations, il y en a eu plusieurs au long des années, à chaque fois qu'il y avait une manifestation pour faire partir la MINUSTAH, curieusement, il y avait un épisode de violence, soi-disant, qui justifiait la présence, la permanence de l'armée, de la MINUSTAH. Et la MINUSTAH, c'est une affaire de beaucoup de millions de dollars, de 500 millions de dollars par an, et c'est trois fois la dette externe d'Haïti. Je pense que c'est finalement une victoire donc des organismes et des gens qui se sont mobilisés, qui ont prié pour que la MINUSTAH parte. Alors j'espère que c'est une victoire et non une convaincance.
Les mauvaises langues disent que ce n'est pas une catastrophe naturelle ce qui s'est abattu sur Haïti, sinon c'est une condamnation pour avoir été le premier pays de l'Amérique latine à avoir pris son indépendance.
Oui, moi je pense aussi que c'est une condamnation pour avoir osé être le premier pays à se déclarer indépendant, qui n'a pas été gratuit d'ailleurs. Depuis lors, ils ont une dette externe qu'ils n'ont jamais pu payer et qui a été une manière de pouvoir arrêter l'esclavage et la soumission envers le colonisateur. Et depuis alors, ils souffrent des injustices et des invasions permanentes.
Pour terminer, comment se trouve-t-il qu'étant argentine, tu parles si bien le français ?
Merci. Je parle français parce que j'ai vécu en Algérie depuis l'âge de 12 ans jusqu'à 17 ans. Et voilà, j'ai appris en Algérie à parler le français.
Pourquoi en Algérie et quand ?
Je suis partie en Algérie avec mes parents, bien sûr, j'avais 12 ans, comme j'ai dit, à cause de la dictature militaire en Argentine. Depuis 1976, le pays a souffert, comme je crois que tout le monde connaît, la pire des dictatures. Et alors on a dû fuir. Et c'est l'Algérie qui nous a accueillis.
Bien, nous avons partagé un bon moment avec Verónica Abitlaïn. Et je te propose, si tu es d'accord, de nous quitter avec Joséphine Becker.
Mais bien sûr.
Qui chante « Haïti ».
Rendra mon pays Haïti. Oui, c'est toi mon seul paradis Haïti. Quand je me rappelle tes forêts si belles, tes grands horizons, loin de tes rivages, la plus belle cage n'est qu'une prison. Mon désir, mon cri d'amour, Haïti, c'est de te revenir un jour. Pays bleu, bien loin sous d'autres cieux, je vivais des jours heureux. Mais tout est fini, seul dans mon exil aujourd'hui, je chante le calme meurtri. Oh, fruit d'amour, Haïti.